Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, la France a-t-elle des leçons à recevoir sur les droits de l'homme ? Certes, l'armée n'interviendra pas en première ligne samedi pour maintenir l'ordre face aux gilets jaunes. Le gouvernement l'assure, les militaires de l'opération Sentinelle seront déployés pour sécuriser certains lieux et permettre aux forces de l'ordre de mieux travailler. Mais le symbole est fort, celui d'un pays qui fait appel à ses soldats pour encadrer des manifestations. Alors voilà qui ne va pas arranger les affaires de la France aux yeux des institutions en charge de la protection des droits humains. Le Conseil de l'Europe, le Haut Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU ont déjà fait part à plusieurs reprises de leur inquiétude, réclamant même une enquête sur l'usage excessif de la force. Ces interventions ont suscité de fortes réactions en France, notamment dans les rangs du gouvernement, sur l'air de « nous n'avons pas de leçons à recevoir en matière de droits de l'homme ». Ça fait pourtant plusieurs années, depuis la mise en place de l'état d'urgence suite aux attentats de 2015, que la France est dans le collimateur des institutions de défense des droits humains. Il faut dire que notre pays a une responsabilité historique particulière sur ce sujet, que sa parole est attendue à l'étranger. Mais cette parole n'est-elle pas justement affaiblie aujourd'hui ? Et la France a-t-elle des leçons à recevoir sur les droits de l'homme ? C'est la discussion du soir en compagnie des deux invités. Cécile Coudrioux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente d'Amnesty International France, organisation bien connue de défense des droits humains qui publie régulièrement des rapports. Et pour discuter avec vous, Henri Guénaud, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012. Vous avez également été député UMP puis Les Républicains de 2012 à 2017, et vous publiez ces jours-ci aux éditions Odile Jacob, Ils veulent tuer l'Occident. Alors je voudrais qu'on démarre sur l'actualité, sur cette décision de mobiliser les militaires de la mission Sentinelle ce samedi lors des manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît au mieux, disons, incongru, au pire dérangeant, Henri Guénaud ?
Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Au-delà même de notre débat sur les droits de l'homme, je vais répéter ce que beaucoup de gens ont répété avec bon sens depuis que cette décision est connue. L'armée n'est pas faite pour ce genre de mission. Les militaires n'ont ni la formation ni l'équipement pour affronter des manifestants, fût-il très violent. Que peut faire un militaire face à des groupes de manifestants très violents ? Il a le choix entre ne rien faire, et alors l'autorité de l'État est abaissée, ou bien faire usage de ses armes. Alors, je comprends très bien qu'on ait pu utiliser les militaires dans l'opération Sentinelle contre le terrorisme, mais un terrorisme qui attaque un lieu public, qui fonce avec un camion dans une foule, on lui tire dessus. Voilà, parce que c'est l'équivalent d'un acte de guerre. On peut abattre un terroriste, mais va-t-on abattre un manifestant, fût-il très violent ? Ce sont deux choses très différentes. Donc je pense que c'est une mauvaise idée, même une très très mauvaise idée. Voilà, vous savez, avant on utilisait l'armée contre les manifestants, les grévistes, avant que l'on créa en France les gardes mobiles entre les deux guerres, et puis ensuite les compagnies républicaines de sécurité après la Seconde Guerre mondiale, et ça donnait des bains de sang régulièrement. Si vous avez envie de voir ce que peut être le face à face entre des grévistes manifestants et des soldats, vous relisez Germinal, puis vous verrez. Enfin, je pense vraiment que c'est une grave erreur d'utiliser les militaires dans ce contexte.
Est-ce que vous partagez le même point de vue, Cécile Coudrioux ?
Oui, tout à fait. Il est clair que c'est quand même un signal plus qu'inquiétant, plutôt un signe qui confirme une sorte de fuite en avant. Une sorte d'escalade, et on ne sait pas très bien jusqu'où ça peut aller comme ça. Donc nous, ce que nous préconisons, au contraire, c'est une réponse proportionnée, une réponse mesurée. Et le droit à l'international, d'ailleurs, c'est vraiment toute sa base, hein, que la réponse soit en fonction de la force en face. Donc là, on est en train de partir dans quelque chose qui est au contraire de plus en plus disproportionné et qui peut bien sûr donner lieu, là aussi, à des dérives et encore plus de blessés. Donc nous sommes plutôt inquiets aussi de cette décision.
Quand vous parlez de fuite en avant, est-ce que vous considérez que ça s'inscrit justement dans un processus qui, puisque ce soir on s'intéresse à la question des droits de l'homme ou droits humains, on va utiliser les deux formules, dans un processus qui, depuis, alors je ne sais pas, quelques mois, quelques années, reviendrait à rogner un petit peu ses droits, ou en tout cas les libertés individuelles en France?
Alors en fait, Amnesty International France, notamment, avait fait des observations sur le terrain déjà pendant la loi travail. Donc on a vu des premiers signaux très inquiétants, nous avons recueilli beaucoup de témoignages et fait de l'observation sur le terrain nous-mêmes, et nous avons bien vu qu'il commençait à y avoir vraiment une dérive dans la façon dont le maintien de l'ordre se faisait. Donc nous, bien sûr, nous rappelons toujours que c'est le devoir d'un État de maintenir l'ordre, hein. Il ne s'agit pas de prôner l'anarchie, bien sûr, mais toujours dans le respect du droit et de l'équilibre. Et là, ce n'était pas tellement ça. Puis, au contraire, ensuite, il a semblé que les choses s'amélioraient. Bien sûr, il y a eu bien sûr la question aussi de l'état d'urgence qui a été prolongé. On se demandait comment on allait en sortir, et la façon dont on en est sorti ne nous a pas satisfait non plus, puisque nous avons déploré le fait que certaines mesures, qui devaient être des mesures absolument exceptionnelles, par définition l'état d'urgence c'est un état d'exception, eh bien se sont retrouvées intégrées dans le droit commun. Donc deuxième gros signal inquiétant. Et là, depuis donc ces nouvelles manifestations avec le mouvement des Gilets jaunes, ce qui apparaît c'est effectivement une forme de... Oui, de disproportion dans la réponse, malgré le fait, bien sûr, qu'on ne peut que reconnaître qu'il y a des violences très importantes aussi du côté des manifestations. Il n'en reste pas moins que la réponse policière est extrêmement forte, avec bien trop de blessés et bien trop d'excès.
Est-ce que vous feriez-vous le constat aujourd'hui, Henri Guénaud, d'une érosion progressive des libertés individuelles et des droits de l'homme en France aujourd'hui?
Moi, juste ce constat excessif, voilà, sur des. Mais il faut prendre le problème de façon un peu, avec un petit peu plus de recul, si vous le permettez. D'abord, faut voir les circonstances, c'est-à-dire que notre tolérance collective, et ça n'est pas propre à la France, c'est propre à toutes nos sociétés occidentales développées, notre tolérance à la montée de la violence est de plus en plus grande. C'est-à-dire que, au fond, sur le coup, les choses nous paraissent insupportables, et puis on s'y habitue, puis on passe à un stade suivant. Donc là, il y a le sentiment que notre société ou nos sociétés sont prises dans un phénomène d'ensauvagement, alors qu'il y a des explications, qu'il y a des causes très, très profondes.
Hein. Vous trouvez que cette tolérance est de plus en plus grande? J'aurais presque
oui,
eu le sentiment inverse, moi.
Non, la tolérance de la société, je parle, ouais. de tout le monde. C'est-à-dire que, finalement, on avait le niveau de violence, notamment physique, dans les sociétés occidentales, mais même économique, sociale, avait beaucoup baissé après la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a eu citer les manifestations de 1947, mais après ça, il y a eu des circonstances exceptionnelles pendant notamment la guerre d'Algérie, mais même 68, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Tout était, la société était en ordre, tout était encadré, enfin, il y avait évidemment les violences étudiantes, enfin, les violences étudiantes, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ils mettaient pas le feu aux immeubles, hein. Voilà, avec des gens dedans. Ils jetaient pas non plus des cocktails Molotov dans des voitures de policiers en bloquant les portes. Enfin, on est dans un tout autre schéma. On voit remonter, enfin sortir une forme de sauvagerie qui s'explique aussi parce qu'on a beaucoup fait souffrir les sociétés depuis une quarantaine d'années. Et quand les sociétés se divisent, se fracturent et qu'elles souffrent, il y a toujours un moment. Vous savez, c'est une vieille histoire. C'est un des grands mots de notre époque. Notre époque croit que elle est très différente des autres. Alors c'est à chaque fois, vous savez, à chaque fois que le malheur se menace de ressortir, c'est parce que on a cru que la société était très différente. Avant la guerre de 14, on croyait qu'il n'y aurait plus jamais de guerre parce que le commerce, l'industrie, tout ça allait aspirer toutes les tendances bellicistes des peuples. Mais voilà, on était à la veille de la plus grande boucherie. Et puis pareil dans les années 30, mais dans les années 20, on mettait la guerre hors la loi, ça ne se reproduirait jamais. Voilà. Eh bien, c'est un peu le cas aujourd'hui. On a l'impression qu'on a vécu une grande mutation anthropologique et que l'homme a profondément changé. Or, la nature de l'homme, si le problème matériel est réel, mais la nature de l'homme, elle n'a pas profondément changé. C'est-à-dire que les sociétés qui se divisent, bien, elles refont toujours, depuis le début des temps, pas moi qui l'invente, mais il faut relire René Girard, mais pas que lui, elles refont leur unité dans le sacrifice sanglant, dans la violence, le bouc émissaire. Voilà. Et ce qu'on voit surgir aujourd'hui, c'est ça, moi, ce qui me frappe le plus dans ce qui est en train de se passer, c'est, par exemple, l'affaire de Finkielkraut, c'est qu'en plein jour, dans plein Paris, à visage découvert, des gens puissent hurler une telle haine. Jusque-là, ils se cachaient pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'antisémites, pas de violence. Et là, ce qui s'est passé samedi, bien sûr, il y a les Black Blocs qui sont extrêmement violents, mais ça, des groupes comme ça, il y en a toujours eu. Mais ce qui me paraît très inquiétant vis-à-vis de la violence, vis-à-vis de cette tolérance, c'est les gens qu'on interroge autour, qui regardent brûler l'immeuble, la banque, mettre à sac et qui disent... Oh ben finalement, je suis bien content, sinon on n'est pas entendu. Ou la dame qui repart en disant, j'emmène un souvenir qu'elle a pris dans le magasin pillé.
Mais du coup, Henri Guénaud, juste avant de repasser la parole à Cécile Coudrailloux, est-ce que vous considérez que du fait de l'existence de cette violence, ça justifie le fait qu'on puisse prendre des mesures qui restreignent les libertés publiques, soit provisoirement, soit de manière peut-être plus,
vous savez, la
plus
liberté,
profonde.
Les libertés publiques, je pense que chacun doit être dans son rôle. Moi, je suis très content qu'Amnesty International existe, comme je suis très content qu'il y ait des avocats dans les procès. Je pense que chacun qui est un défenseur des droits, moi je suis pas toujours d'accord avec Jacques Toubon, mais je l'aime beaucoup pourtant, et je pense qu'il est dans son rôle. Voilà. Je suis moins convaincu par Madame Bachelet, par le Conseil d'Europe.
On va y revenir sur Madame Bachelet.
Mais c'est tout à fait normal. Le gouvernement, lui, les responsables politiques, ils ont à prendre des décisions qui ont une sorte d'une dimension tragique, c'est-à-dire qu'il faut arbitrer entre plusieurs légitimités. Vous savez, les droits de l'homme, c'est une grande conquête de l'esprit occidental, de la pensée occidentale, ce qui nous vient de la transcendance, de l'universalisme, etc. Mais le problème, c'est quand ça se transforme en religion, comme tout le reste d'ailleurs, c'est-à-dire quand on considère qu'il n'y a plus de conflit de légitimité, qu'il n'y en a plus qu'une seule, et qu'on n'est plus devant un choix tragique. Or, les politiques, le pouvoir politique est devant ce choix tragique, parce que la sécurité publique, le fait d'empêcher les gens de piller les autres, de leur taper dessus, eh bien, ça fait partie aussi des libertés et du devoir des gouvernements.
Alors c'est le Coudrailloux,
justement. Je pense quand même, faut quand même considérer que le dilemme a mal été tranché, parce que justement, il n'y a plus d'équilibre entre ce devoir de maintenir l'ordre et cette obligation également de respecter ses engagements internationaux et donc de garantir le droit de manifester. Le
problème, par quoi il a été rompu, cet équilibre?
Il a été rompu parce que justement, confronté à une situation de violence certes extrême, mais pas généralisée, dans les manifestations, il faut quand même pas oublier qu'il y a une vaste majorité de personnes qui, elles, souhaitent manifester pour revendiquer des droits, ce qui est absolument légal et protégé par le droit international, européen et français.
Donc, la liberté de manifestation en France aujourd'hui est atteinte?
On considère qu'elle est totalement atteinte à Amnesty International. Effectivement, c'est notre point de vue sur la loi dite anti-casseur. C'est-à-dire, cette loi a justement rompu plusieurs équilibres. Le premier équilibre très important, c'est celui justement entre les pouvoirs. On considère que le fait d'avoir donné un vrai feu vert à ces enquêtes administratives pour faire des interdictions administratives de manifester, pour nous, c'est vraiment franchir le Rubicon. C'est-à-dire que là, on rentre dans le règne de l'arbitraire, c'est beaucoup trop flou, ces critères, pour laisser un préfet, et non pas un juge judiciaire, prendre de telles décisions. Donc, premier équilibre rompu. Le second équilibre, c'est celui justement de maintenir l'ordre pour en fait garantir le droit de manifester. Or là, ce n'est pas ça qui se passe. Là, on veut maintenir l'ordre au prix du droit de manifester, dans la mesure où, d'une part, les violences policières, car il faut rappeler un chat, ce sont bien des violences policières tout de même qui ont lieu. Manifestement, on a du mal à le reconnaître du côté du gouvernement. Mais nous, Amnesty International, nous pensons que des enquêtes sont nécessaires et qu'il y a vraiment eu, par exemple, un nombre de tirs de LBD-40, enfin, ex-flashball, très impressionnant, avec quand même 22 personnes et Borgné, par exemple, beaucoup d'arrestations et de détentions en garde à vue qui sont avérées arbitraires puis qui n'ont donné lieu à aucune poursuite. Donc il y a un climat général où il y a certainement des abus. Et donc ce qui se passe clairement, c'est quoi? C'est que les citoyens et citoyennes finissent par perdre confiance dans les institutions. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on retrouve effectivement cet équilibre entre, d'une part, l'exécutif et le judiciaire, et entre, bien sûr, un maintien de l'ordre nécessaire, mais de vrais efforts pour garantir le droit de manifester. Or, aujourd'hui, avec cette disposition, d'une part, donc sur les interdictions administratives, mais aussi sur la dissimulation du visage, là encore, on voit bien que c'est complètement dans le subjectif et dans l'arbitraire, puisqu'il y a d'autres raisons que celles d'être un casseur qui font qu'on peut vouloir se dissimuler le visage, ne serait-ce que la protection de gaz lacrymogène utilisé avec de plus en plus d'excès et de plus en plus de force en plus. Donc évidemment que ce type de loi, pour nous, contrevient au respect des engagements internationaux de la France.
Alors rappelons que cette loi dite anti-casseur, elle a été votée par le Parlement, mais elle est désormais soumise à l'avis du Conseil constitutionnel qui devra la valider.
C'est quand même intéressant de voir que ce soit le président lui-même qui ait demandé effectivement que ce soit examiné par le Conseil constitutionnel. Ça prouve bien qu'il y a quand même de légers doutes sur son caractère constitutionnel. Et pour nous, c'était effectivement une évidence qu'il y a un vrai problème de déséquilibre dans cette loi.
Et sur cette loi, proposition de loi, d'ailleurs à l'origine, les propos d'un de vos anciens collègues, Henri Hainaut, député, le député centriste Charles de Courson, qui disait il y a quelques semaines de cela, on se croit revenu sur le régime de Vichy. Réveillez-vous, parce que le jour où vous aurez un gouvernement différent avec une droite extrême au pouvoir, vous verrez, mes chers collègues.
Oui, ça, moi, je suis beaucoup Charles de Courson, mais d'abord l'argument sur...
Vous aimez beaucoup Jacques Toubon et voilà. Charles de Courson.
Non, Jacques Toubon encore plus, mais parce que c'est une vieille histoire, mais l'argument selon lequel on donne des armes aux futurs dictateurs est un argument qui ne tient pas debout. Si
pourquoi
vous
ça tient pas?
Mais ça tient pas debout parce que le jour où quelqu'un est en mesure d'être un dictateur, de toute façon, il te donne les moyens de mettre en place sa dictature.
J'ai un point de vue différent. Oui. Parce que je pense qu'il y a aussi la théorie de la grenouille dans l'eau tiède que l'on fait chauffer au fur et à mesure. Et que parfois, les personnes s'habituent au fur et à mesure à une érosion des droits, notamment quand elles se sentent menacées. Et je pense que justement, les citoyens peuvent avoir tendance à préparer quelque part aussi le terrain pour des gouvernements qui, eux, utiliseront les mêmes lois de manière beaucoup plus arbitraire encore.
Oui, enfin, Hitler a fait toutes les lois dont il avait besoin, et s'il y avait eu un conseil constitutionnel le 10 juillet 40, il se serait certainement pas opposé au plein pouvoir voté au maréchal Pétain. Donc je crois que dans les moments, vous savez, ces moments où la dictature apparaît, où la tyrannie s'impose, on se retrouve dans des situations qui n'ont rien à voir avec les situations ordinaires, avec le fonctionnement ordinaire de la justice ou de l'état de droit. Donc pour moi, c'est pas un argument, mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Alors, à propos autant de l'état d'urgence que de la loi, d'abord, il y a des périodes où il faut adapter l'état de droit aux nécessités du moment. Les engagements internationaux de la France, moi, franchement, ça m'empêche pas de...
De manière provisoire et...
Mais les engagements internationaux de la France ne m'empêchent pas de dormir, me tourmentent pas. Je pense que je vis dans une nation où il y a tout ce qu'il faut comme défenseur des droits, comme défenseur du droit, comme liberté de débat. Et j'ai pas besoin de Madame Bachelet, ni du Conseil de l'Europe, ni de faire référence aux traités débattons entre nous sans avoir besoin de l'ONU qui pourrait s'occuper de bien autre chose dans le monde que de la situation terrible des droits de l'homme en France, même s'il y a sujet à débat. Voilà.
La France sorte, se dédise de ces
engagements. Non, il n'y a pas besoin de sortir.
Mais est-ce qu'il faudrait de poids, de mesure,
à des critères différents? Je donne un exemple. C'est la France a signé la Convention européenne des droits de l'homme, et puis un jour la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que on violait les droits de l'homme quand il n'y avait pas de syndicats dans l'armée. Bah, excusez-moi, mais personne n'avait signé la Déclaration européenne des droits de l'homme nulle part d'ailleurs en Europe, en pensant qu'il signait quelque chose, qu'il engageait à créer des syndicats dans l'armée. C'est un exemple un peu extrême, mais juste pour dire que après il y a l'interprétation qu'en font les juges et les juridictions, et là on peut ne pas être d'accord. Voilà, c'est pas vous savez, j'étais très frappé en travaillant un peu sur ce sujet, parce que disait en 1936 le représentant de la France à Genève à la conférence sur les droits des réfugiés, qui a inventé le droit des réfugiés. Il s'agissait d'ailleurs du petit-fils de Marx que Blum avait envoyé là-bas, qui s'appelait Monsieur Longuet. Et il disait, il est bien entendu que la France prend des engagements pour la situation présente, mais qu'elle ne saurait s'engager pour la situation future parce que, je résume, personne ne sait si à un moment donné ça ne va pas devenir ingérable, le flux des réfugiés, et à ce moment-là, on est obligé d'adapter l'interprétation des textes et les textes eux-mêmes. Vous avez dit juste une remarque sur les préfets et le pouvoir administratif. Vous savez, d'abord, c'est pas tout à fait nouveau, même si on a étendu le champ. Aujourd'hui, un maire pouvait très bien, avant cette loi, interdire une manifestation. Il y a un recours qui n'est pas plus mauvais ou moins protecteur des droits que celui du juge judiciaire, c'est le juge administratif. Le référé liberté fonctionne très bien, et il défend tout autant les libertés que le juge judiciaire.
Dans l'exemple
que vous citiez d'ailleurs, sur les interpellations, après elles passent devant le juge judiciaire qui tranche. Voilà, les droits sont parfaitement respectés.
Sur la question des engagements internationaux, Cécile Goudriou, je voudrais vous entendre. Est-ce que vous... Alors, j'ai entendu que vous ne partagiez pas tout à fait c'est le même point de vue
qu'en Russie. Non, pas du tout. Cette fois-ci, là, il faut aussi savoir dire lorsqu'on n'est absolument pas d'accord. Moi, je pense que ça, c'est la fin de tout. Si on commence à dire que tout est à géométrie variable et que les engagements internationaux ne sont là que lorsque ça nous arrange, c'est absolument la fin du respect des droits humains à travers la planète. Nous, ce que nous croyons, c'est que justement, la règle du droit international doit être la même pour tous, parce que sinon, on a une perte totale, d'une part, de cohérence, bien sûr, on n'y comprend plus rien, mais aussi d'exemplarité. Et ça, c'est absolument fondamental, précieux et nécessaire de le protéger.
Mais est-ce qu'on peut pas aussi défendre le fait que ça puisse être considéré comme de l'ingérence que d'avoir des institutions qui sont des institutions supranationales, le Conseil de l'Europe, le Commissariat aux droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme.
Vous remarquerez que l'argument de l'ingérence est toujours utilisé par des États ou par des gouvernements lorsqu'ils sont gênés aux entournures, parce qu'ils se retrouvent, eux, l'objet de critiques. C'est pareil pour la Cour pénale internationale, par exemple, on l'a vu avec les Philippines qui a souhaité en sortir. Donc nous, ce que nous... Ou les États-Unis qui ne veulent même pas y rentrer, c'est encore autre chose. Donc ce que je pense, effectivement, enfin ce que nous pensons à Amnesty International, c'est que c'est un ordre mondial qui doit reposer non seulement sur le droit international, mais sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais je dirais plus encore sur le droit international, car ces traités internationaux, ces pactes internationaux, comme celui international qui est relatif aux droits civils et politiques, les États choisissent de le signer, puis de le ratifier, ce qui le rend, dans ce cas-là, contraignant. Donc on ne peut pas dire « je le signe au moment où ça m'arrange, mais lorsque je serai dans une situation différente, vous devrez oublier. Sinon, on ne peut plus avoir aucun effet de levier pour, à notre tour, interpeller un autre État. Et ce n'est pas de l'ingérence. L'argument de l'ingérence tombe dès lors qu'on a choisi de signer et de ratifier un traité. Si on commence à dire cela, plus personne ne pourra jamais interpeller un autre État de manière neutre, de manière absolument objective, en fonction du droit international. » Moi, je ne parle pas de leçons. Pour en revenir à votre titre, je trouve que le titre est à la fois intéressant, provocateur, et donc c'est bien que vous l'ayez choisi. Mais à Amnesty International, on ne dit jamais qu'on donne des leçons, justement. Nous rappelons les États à leurs engagements internationaux, ce qui n'est pas du tout la même chose. On n'est pas du côté de la morale, on est du côté du droit international, ce qui est bien différent, même s'il se base bien sûr sur des valeurs universelles.
France Culture. Du grain à moudre. Hervé Gardette.
Et en compagnie de Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International France, et d'Henri Guénaud qui publie « Ils veulent tuer l'Occident » chez Odile Jacob. Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était à l'Élysée. Nous posons cette question à la fois intéressante, venez-vous de dire, Cécile Coudriou, et un peu provocatrice. La France a-t-elle des leçons à recevoir sur les droits de l'homme? Est-ce que la France, Henri Guénaud, alors au-delà de ses engagements internationaux, est-ce qu'elle n'a pas historiquement une responsabilité en la matière qui fait qu'elle doit peut-être se montrer encore plus exemplaire que les autres pays, et donc accepter aussi que l'on puisse lui faire le reproche de ne pas respecter entièrement les droits de l'homme aujourd'hui.
Mais oui, mais vous savez, encore une fois, les droits de l'homme, c'est pas une religion, et les traités internationaux...
Non, ce sont des textes.
Ils règlent pas. Oui, mais les textes, vous savez, ils n'existent pas sans l'interprétation des textes. Voilà. Donc je vous donne encore deux exemples.
Mais c'est dans le préambule de la Constitution, pardon. Ils ont une valeur constitutionnelle.
Moi, je considère, mais pour ma part, on va pas être d'accord du tout, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle a rempli son office politique et moral pendant presque 200 ans, enfin 150 ans, et qu'elle a pas eu besoin d'être transformée pour cela en texte de droit. Et d'ailleurs, ça n'est pas un texte de droit, c'est un texte philosophique dont un jour les juges se sont emparés, ont donné, en 71, pour ce qui concerne la France,
le Conseil constitutionnel,
lui ont donné une valeur juridique un champ d'interprétation immense aux juges, mais moi je ne veux pas être gouverné par les juges. Voilà. Donc, et je vous, quant à l'histoire des droits de l'homme, très bien, une fois qu'on a posé le principe, quand vous êtes aux États-Unis, et d'ailleurs ça a été le cas de l'ONU, les juristes de l'ONU avaient fait une remarque que je trouve absolument déplacée, surtout quand on voit la composition vous savez, c'est le Conseil qui a... Conseil des droits de l'homme, qui n'a pas de pouvoir normatif, mais qui condamne la France à cause de la loi sur la burqa. Mais pour un Américain ou pour un juriste saoudien, évidemment, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Et bien, pour un bon républicain français, ça n'est pas une atteinte, ça n'est pas... En tout cas, pour moi, c'est pas une atteinte aux droits de l'homme du tout.
Que direz-vous quand nous chercherons, par exemple, à lutter contre l'excision, contre les mariages forcés? Ils vont nous dire aussi, mais après tout, c'est notre culture, vous n'avez pas à nous donner de leçons. Donc, qu'on ne pourra plus lutter contre les droits humains, contre les violations, pardon, des droits humains. Vous vous rendez compte
le dénoncer,
à quel point c'est une bande glissante.
Si le droit, si le d'abord, je préfère les droits de l'homme aux droits humains, l'homme avec un grand H, il n'y a pas de sexologie là-dedans, mais c'est le droit de l'homme, ça me paraît une très
dans les faits, on a un petit peu oublié les femmes, c'est pour ça qu'on a préféré dire droits humains.
Non, mais je peux comprendre, mais moi je préfère l'expression droit de l'homme et je n'oublie pas les femmes dans cette affaire. Mais comprenez bien que si ça devient une religion et si ça débouche sur la croisade, on arrive au contraire de ce qu'on cherche. Bon, en France, vous par exemple, on trouve très très respectueux des libertés, des droits de l'homme, de poursuivre d'essayer de démanteler des sectes. Aux États-Unis, c'est considéré comme une atteinte absolue aux droits fondamentaux.
Je voudrais vraiment donner un exemple très différent, puisque là, effectivement, sur ce grand exemple, ça sera peut-être moins frappant pour nos auditeurs. Prenons l'exemple de l'Arabie Saoudite. Ou de l'Égypte. Dans les deux cas, on voit bien que le président Macron est tout de même gêné aux entournures lorsqu'il doit, non pas, je répète, donner des leçons, mais jouer son rôle et au nom de la France, rappeler à quel point il est important de respecter, de ne pas torturer, de ne pas faire d'emprisonnement arbitraire, etc. Mais comme par ailleurs, nous vendons des armes à l'Arabie Saoudite, dont on sait qu'elle les utilise au Yémen. Et évidemment, on est beaucoup plus gêné et on préfère dire « je ne veux pas donner de leçons ». De la même façon pour l'Égypte, on sait que certaines armes vendues par la France ont servi à une répression sanglante des manifestants en utilisant par exemple des camions blindés vendus par la France. Donc là, on voit bien que le deux poids deux mesures ne fonctionne pas. C'est mais là ça, qu'on rentre dans la réelle politique où les intérêts économiques vont finir par devenir plus importants que les droits humains.
Mais est-ce que ça, c'est pas une approche peut-être un peu plus honnête finalement qui est celle aujourd'hui de la diplomatie française par rapport à ce qui se passait autrefois, c'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y avait aussi une dimension d'exercice rhétorique à aller dans des pays qui ne respectaient pas les droits de l'homme et à avoir forcément le passage où on disait il faut absolument les respecter, et puis ça n'empêchait pas quand même de faire des affaires avec ces pays. Est-ce qu'au moins là, on n'est pas dans une approche beaucoup plus pragmatique?
Ce qui est important, c'est qu'il y ait une cohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un pays, défendre les droits humains et dans l'autre, se dire finalement, là, je ne donne pas des leçons. Or, M. Macron a un petit peu quand même pratiqué cette théorie, justement, du pragmatisme, tout à fait assumé d'ailleurs, et de dire selon la situation, selon la stratégie, est-ce que c'est un aller stratégique ou pas, que vais-je dire? Par exemple, pour la Chine, il a littéralement employé l'expression qu'il n'avait pas de leçon à donner pour l'Égypte de même. Et de notre côté, nous avons été très satisfaits de son attitude vis-à-vis de Poutine, par exemple, lorsqu'il s'est agi de la Tchétchénie, notamment, ou plus récemment de Oyub Titiev, donc un défenseur des droits qui, avec une ONG qui s'appelle Mémorial, s'est retrouvé dans un procès mascarade, condamné à 4 ans de prison. Donc là, l'effet de levier que peut avoir la France, en faisant jouer aussi, bien sûr, des alliances économiques, des intérêts, par exemple, communs dans certains domaines, ça peut donner un effet de levier. Or, si cette personne, telle que Poutine, telle que Al-Sissi, ou encore le prince Mohamed Ben Salman, peut répondre, mais vous-même, vous n'êtes pas cohérent, puisque dans votre propre pays, avez-vous vu l'état de vos prisons ou ce qui se passe dans les manifestations, on perd en crédibilité.
Le journaliste,
donc c'est très, très, très délétère. Ouais,
le journaliste de Libération, Marc Semo, qui suit les questions internationales, a une théorie sur ce que vous qualifiez de deux poids deux mesures, Cécile Le Coudriou, par rapport à la diplomatie des droits de l'homme d'Emmanuel Macron, et lui, il y voit une vision très culturaliste, c'est-à-dire qu'il se focalise sur la question des droits de l'homme dans l'Europe, au-delà des seules limites de l'Union européenne, et avec peut-être une approche un peu plus, comment dire, libérale, disons, par rapport à d'autres pays, parce qu'il y aurait moins la dimension universaliste. Et c'est la question que je voulais vous poser, justement, Henri Guénaud, c'est-à-dire, est-ce que si on suit votre logique, si vous dites, vous, par exemple, on a, nous, des valeurs qui peuvent être des valeurs qui sont propres à la France, à la République française, et on n'a pas forcément à s'adapter à ce qu'on nous demande, est-ce que ça veut dire que, dans le sens inverse, la France n'a plus de message universaliste à porter sur les droits de l'homme?
Si, elle a un message, mais c'est Camus disait, nous avons besoin d'une philosophie des limites. C'est-à-dire tout ce qui est sans limite finit par devenir dangereux et meurtrier. Même la meilleure intention du monde. Voilà ma conviction profonde. Si on en fait une religion et qu'on est prêt à jouer le rôle des croisés pour la répandre, encore une fois, on obtient le contraire de ce qu'on a voulu. Vous parliez de l'Égypte.
La France n'en est pas là, quand
même. Le droit international est une religion pour vous? Ça, je comprends pas. Vous parlez des droits de l'homme.
Mais ça devient une religion.
Du droit international.
Non.
Parce qu'il y a le droit international des droits de l'homme.
Non,
me semble-t-il, c'est pas de l'abstrait.
Avec lequel j'ai une petite réticence, parce que je sais pas ce qu'est réellement le droit international.
Le droit international des droits humains, des droits de l'homme,
oui, mais
c'est
quelque chose
qui est absolument objectif.
L'universalisme, il doit essayer de se concilier avec les particularités de chaque société, de chaque culture et de chaque peuple. Si on oublie l'universalisme, c'est catastrophique parce qu'on est dans le relativisme complet. Mmh. Mais si on oublie le particularisme, alors on est dans la croisade. Voilà. Et dans les deux cas, c'est une catastrophe.
Donc, est-ce que c'était pas par exemple dans cet universalisme que l'intervention en Libye a eu lieu, non, mais, par exemple, il y a quelques
temps? Je vais y revenir un instant, d'accord, si vous voulez parler de ce sujet. Mais je reviens sur l'Égypte, c'est pas ou même sur l'Arabie Saoudite. Moi, j'ai aucune sympathie pour le régime saoudien. Simplement, nul n'a intérêt en Occident, nul n'a intérêt dans le monde d'ailleurs, pour l'instant, à voir s'effondrer les Émirats et l'Arabie Saoudite.
Mais donc, qui vous parle de laisser s'effondrer, je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, le meurtre de Khashoggi, par exemple, en toute impunité, à la face entière du monde, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, mais j'en pense le plus grand mal, voilà. Je trouve que personne n'en a tiré.
Faut-il pas réagir dans ce cas-là? Conséquence.
Mais oui, mais la réaction, elle doit aussi tenir compte de la géopolitique et de la géostratégie. Pas seulement de l'économie, mais prenez l'Égypte. Enfin, quand même, on a vécu, moi, j'ai vu s'effondrer le régime de Monsieur Moubarak, dont on pouvait penser le plus grand mal, mais qui était quand même un homme de paix, parce que c'est pas toujours aussi simple, hein. C'était un homme de paix. On l'a remplacé par un régime, et en plus, je le suivais dans en heure, donc les Américains, ils sont beaucoup pour quelque chose, hein, c'est pas... on l'a remplacé par les frères musulmans, et franchement, entre les frères musulmans et Sissi, si je suis obligé de choisir, eh bien, je choisirais Sissi. Voilà, si j'étais responsable, je défends pas le gouvernement,
ni M.
Macron.
Il ne s'agit pas de choisir, encore une fois.
Mais si, il y a
moi, je parle d'avoir une
faut.
Diplomatie plus vigoureuse, mais ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas État et qu'on se met à lui donner des leçons. Mais c'est quand même possible de se dire que dans ce monde-là, la communauté internationale peut, en se basant sur le droit, je le répète,
le droit, c'est pas une religion non plus. Une fois que vous avez
dit le droit, c'est l'anarchie totale dans le monde.
Pas du tout. Mais faire de tout ça des religions, ça nous conduit au désastre. Rien de pire dans le monde que la bonne conscience. Voilà. Ce qui est important, c'est le cas de conscience. Vous êtes confronté à des situations qui sont au sens propre tragiques. Hein. Antigone a raison et Créon n'a pas tort. Camus, hein, c'est pas Sissi, c'est Camus, voilà. Et il a parfaitement raison, c'est-à-dire que vous êtes souvent confronté à la télescopage de une ou deux ou plusieurs légitimités et qu'il faut trancher et dire il n'y a pas à trancher, de toute façon c'est réglé d'avance et c'est écrit dans les textes, est une folie. Voilà, c'est une folie qui conduit au chaos du monde, qui conduit au chaos du monde et qui conduit au malheur des peuples. Voilà mon sentiment profond. Et ça ne veut pas dire que j'abandonne les droits de l'homme, mais je pense que on est toujours dans le cas de conscience. Jusqu'où doit-on aller? Et à quel type de choix tragique sommes-nous confrontés?
C'est le colériau.
Pour en revenir à votre titre, ce qu'on observe tout de même, c'est que lorsque le pays se retrouve à son tour critiqué, c'est quand même vraiment l'hystérie. Je veux dire, la France a jamais j'ai entendu les Français se plaindre qu'on disait partout c'était le pays des droits de l'homme, même si c'est avant tout le pays de la Déclaration d'ailleurs des droits de l'homme et du citoyen.
Comme dit Monsieur, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, hein, quand on est tout petit.
Notre référence, je le rappelle, pour Amnesty International, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Hein.
Dont on vient de fêter les 70 ans.
Chacun sa religion, si je peux dire avec une petite pointe d'humour, mais je veux dire par là que.
Dirigé par un Français pour l'essentiel.
En effet, René Cassin, on peut quand même en être fier. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas à la fois utiliser des outils dont on pense que ça peut vraiment créer un monde meilleur, un monde où il y a plus de justice. Vous parliez d'hommes de paix tout à l'heure. Moi, je pense que la paix n'est pas notre objectif. Nous ne sommes pas une association pacifiste.
Non plus,
en tout cas, non, la guerre non plus. Je veux dire que le droit international autorise la guerre, par exemple. Donc nous, ce que nous cherchons à dire, c'est que si les 30 articles énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme étaient respectés partout, nous n'aurions plus tous ces conflits mondiaux, nous n'aurions plus tant de malheurs et tant d'horreurs qui se passe dans le monde. C'est quand même une ligne qui est assez claire et qui se retrouve déclinée dans ces pactes internationaux. Donc, lorsque la France se met à hystériser la réaction, par exemple, d'une Michel Bachelet ou également le défenseur des droits ou pour le Conseil de l'Europe, tout allait dans le même sens, au lieu de se dire il y a quand même des signaux qui convergent, bon sang, au lieu de se dire ça en disant, bon, on va peut-être essayer de voir autrement les choses, non, on le voit immédiatement comme quelque chose qui serait absolument éhonté. Comment ose-t-on comparer la France à un autre pays où la situation est bien plus dramatique? Il ne s'agit pas de comparer. Nous, on ne fait jamais de classement à Amnesty International. Il s'agit de dire que parfois, les signaux sont au rouge aussi dans un pays qui se dit démocratique et qui risque de perdre son exemplarité. C'est valable pour les USA, c'est valable pour le Royaume-Uni, c'est valable pour la France. Ça ne veut pas dire que c'est la même situation qu'au Nicaragua ou en Arabie Saoudite. Là, on serait vraiment idiot de dire une chose
aux
pareille.
Aux États-Unis, par exemple.
Ou aux États-Unis. Mais quand les États-Unis ont construit Guantanamo, tout de même, on voit bien qu'il y a une dissonance cognitive. Le pays qui se voulait être le leader du respect des droits et et de la liberté s'est mis à complètement dériver. Nous pourrions le faire aussi dans d'autres domaines, et c'est pourquoi nous devons rester vigilants et ne pas avoir peur que parfois des critiques viennent aussi à notre rencontre.
Et c'est de la peur ou c'est de l'arrogance? Est-ce qu'il y a quand même pas une part d'arrogance quand même, Henri Guénaud, dans le fait de voir la France et le gouvernement, alors aujourd'hui, et puis un certain nombre aussi de commentateurs, c'est-à-dire c'est vrai qu'après les propos de Michel Bachelet sur la France, cette demande d'une enquête sur l'usage excessif de la force, alors après il faut dire aussi qu'en plus dans son intervention, elle évoquait aussi le cas de manifestations sociales en Haïti et puis au Venezuela, ce qui a particulier déplu au Premier ministre. Mais en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'arrogance française de considérer que puisqu'elle est la patrie des droits de l'homme, elle ne peut en aucun cas faire l'objet de critiques sur ce sujet.
Elle peut faire l'objet de toutes les critiques que vous voulez. Je trouve très bien que Amnesty International existe, encore une fois, que le défenseur des droits existe, mais expliquer qu'on va faire une enquête de l'ONU sur les droits de l'homme en France, c'est non. Voilà, c'est non. Pour moi, c'est inacceptable.
Mais qui doit être en charge, alors, selon vous, de l'application, par exemple, de ces textes?
Il n'y a pas le droit international, il n'y a aucune application des textes.
La déclaration des droits de l'homme, elle est dans la Constitution.
On mélange la France et le monde,
La déclaration universelle. Donc en France, il y a tout ce qu'il faut. Il y en a même parfois un peu trop. Mais bon, c'est notre affaire. Voilà, c'est pas. Le droit international, il faut voir les choses en face. C'est que il n'a d'application que dans la mesure où les peuples ou les États en acceptent l'application, ou bien dans la mesure où les plus forts imposent aux plus faibles son application. Voilà. C'est quand on crée la Cour pénale internationale, c'est très intéressant. Hein, les États-Unis n'y sont pas, la Chine n'y est pas, la Russie n'y est pas. L'Inde, je crois, n'y est pas non plus.
C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Ça repose sur une décision au départ. Ça n'est pas imposé. Ça repose sur une décision signée et ratifiée pas. Bon, le statut de Rome, c'est pareil pour la Cour pénale internationale.
Oui, mais c'est pareil.
Les États ont décidé ou
c'est
pas.
C'est très intéressant.
On ne peut pas dire qu'on s'en retire dès lors. Parce que l'objet du risque d'une enquête.
Le traité de Rome, on l'a appliqué d'une certaine façon jusqu'au milieu des années 80. Et puis après, on a fait le marché unique et on a appliqué même les dispositions du traité de Rome.
Le statut de Rome qui a fondé la Cour pénale internationale.
La CPI d'un côté et l'Europe de l'autre.
C'est très intéressant.
Justement, j'allais dire, pour cette Cour pénale internationale, que s'est-il passé? C'est que, effectivement, elle a perdu un petit peu en crédibilité, même si nous continuons à la défendre, parce que c'était trop souvent l'Afrique qui était l'objet de critiques, voire d'enquêtes. Et bien sûr de procès. Et le problème est là, c'est que si on se met à se retirer de la Cour pénale internationale ou de renoncer donc au statut de Rome, dès lors qu'on fait l'objet à son tour, comme l'Afrique du Sud l'a fait, ou a failli le faire en tout cas, ou les Philippines, effectivement c'est la fin de tout, ça ne sert à rien à ce moment-là. Ce qu'il faut, c'est que les États, pour des raisons évidentes, décident de rentrer dans la communauté internationale, dans une communauté qui respecte les droits ensemble. Mais après, il faut avoir une cohérence et ne pas s'en retirer dès lors que ça ne nous arrange plus. Donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est important de considérer ça non pas comme une religion, mais comme des choix qui ont été faits par les pays. L'État français, lorsqu'il a ratifié par exemple ce pacte international sur les droits civils et politiques, s'est engagé à protéger le droit de manifester, la liberté d'expression, non aussi au procès arbitraire ou à une détention arbitraire. Donc tout cela l'oblige, ce sont bien des engagements internationaux qu'il doit tout de même respecter.
Non, tout ça, ce qui nous y oblige, c'est l'impératif catégorique de notre propre morale. Le droit international, si ça consiste à remettre toute la politique entre les mains des juges ou d'autorités indépendantes qui ne rendent compte à personne et qui ne se soucient jamais de la légitimité de leurs décisions, ni d'ailleurs de la légitimité du droit. Le droit ne se justifie pas par lui-même. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette espèce de défausse générale de la politique. C'est un des grands sujets de mon livre. On pourrait dire la même chose pour l'OMC. On pourrait dire, tous les États se défaussent. Ils se défaussent de tout. Il n'y a plus de politique. On ne peut même plus leur demander des comptes parce qu'ils disent, moi, j'y peux rien. Et vous demandez pourquoi il y a une crise de la démocratie.
Je crois que ça crée un cadre au contraire. Non, je crois que c'est l'inverse. Ça crée un cadre protecteur. Qui pourrait dire, je voudrais qu'on renonce à défendre mes libertés fondamentales, par exemple? Quel citoyen ou citoyenne dans le monde ne serait pas satisfait que la France ait signé et ratifié ce pacte?
J'ai besoin de la Cour pénale internationale.
pas pour avoir.
Ça j'ai besoin de la Cour pénale internationale pour ça. Non, je crois
la
pas.
La Cour pénale internationale permet une justice internationale qui ne sera pas, dans l'idéal, justement, à plusieurs vitesses. C'est bien pour ça qu'il fallait aussi qu'il y ait des enquêtes, pas seulement sur l'Afrique, mais sur d'autres pays. Les droits de l'homme sont les mêmes pour tous, dans tous les pays.
Ça ne fonctionne pas.
Merci, merci beaucoup à tous les deux. On pourrait continuer la conversation. Peut-être que ça va être le cas hors antenne, mais assez longtemps. Merci en tout cas à vous deux, Cécile Coudreillou, présidente d'Amnesty International France.
Merci.
Et Henri Guénaud, Ils veulent tuer l'Occident. C'est votre dernier ouvrage qui vient de paraître chez Odile Jacob. On peut réécouter cette émission sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Ledoux, Antoine Dulster, Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyret Legras avec à la prise de son Pierre Faucillon. Je profite des quelques secondes que j'ai encore pour vous annoncer que le prochain Esprit Public sera enregistré ce samedi à 14h en public au Théâtre de l'Odéon. Aux côtés d'Émilie Aubry, il y aura Christine Ockrent, Aurélie Filippetti, Thierry Pech et Dominique Régnier pour parler de la France, d'où vient la violence et de l'écologie. Quelle prise de conscience. L'inscription, c'est comme chaque fois sur notre site internet franceculture.fr.